19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et vous êtes sur l'antenne de Beurre jusqu'à 20h dans votre quotidienne sportive Time Sport. Avec nous ce soir, il y aura... Et oui, des grands athlètes du Jiu-Jitsu brésilien. On les personnes, allez, de Wissem et aussi Adil Sali et Safaldin. C'est bien ça, hein, messieurs, sont avec ça, nous. Il y a ça. Les trois personnes. Et oui, ils nous ont envahis carrément. Hein. Ils nous ont envahis. C'est la petite équipe de Kim. Bon, on le fera parler en cette fin d'émission. Non, lui, il est trop sur son portable. Il ne me regarde pas. Mais ça fait rien, ça fait rien. Alors, dans cette émission, on aura du scouting au menu lancé en 2014. L'application Tonser compte aujourd'hui 1,1 million d'utilisateurs en Europe et permet donc de récupérer, de repérer aussi les jeunes joueurs du monde amateur qui auraient échappé au radar des clubs professionnels. Florian Thauvin va retrouver les terrains avec l'Olympique de Marseille. Allez, un petit clin d'œil aussi du côté de l'Open d'Australie, mais aussi avec la NBA. Toujours une pensée pour Kobe Bryant. Ça sera au menu de cette émission et on parlera de ces fameuses huitièmes de finale de la Coupe de France qui fera tant plaisir à Yanis, notre réalisateur, avec l'OM qui passe au-dessus de Strasbourg. Eh oui, ça lui fait tant plaisir. C'est parti. Go, go, Time Sport.
Time Sport.
Avec moi, on aura Achille, mais aussi El Presidente, Kamel Enkeraï de la partie. Il m'a pas abandonné, il est là, il est toujours avec moi. Comment ça va, Kamel ?
Ça va, Bilal, et toi ? Tu vas bien ?
Tranquille.
Toujours un plaisir d'être parmi vous. Hein.
Et nous aussi, Kamel.
Une bonne soirée à nos auditeurs et nos auditrices.
Oui, on l'espère. On l'espère. Il y a de grands colosses, là, de beaux bébés, comme on dit dans ce studio là, ce soir. Ça promet.
Il y a du lourd.
Ouais, il y a du lourd. Allez, justement, Adil, comment ça va ?
La forme.
Tranquillement.
Content d'être ici.
Ouais, pour la première fois dans cette émission.
Première fois dans cette émission,
ouais.
Première fois à la radio de manière générale.
Oui, il faudra réagir aussi, le 01 53 48 3000.
Exactement.
Bien sûr, concernant les questions de ces combattants, cette discipline, le Jiu-Jitsu. On va s'attarder tout à l'heure, c'est promis. Wissam, comment ça va avec nous aussi ?
Très bien, et toi ?
Ouais, tranquillement ?
Super.
Ouais. Ouais.
Merci pour l'invitation.
Non, mais super. Mais nous aussi, on vous remercie de votre disponibilité, d'être venu vraiment avec, ouais, en mode trio, quoi. Safaldin, comment ça va ?
Je m'appelle Safaldin.
Safaldin, eh ben.
Comme ça, la prononce bien.
Eh ben, ça va, il n'y a pas de problème. Pour
bah,
tout
écoute,
le monde.
Je te remercie pour l'invitation.
Ouais.
Je suis content d'être ici. Mais je fais la radio depuis des années.
Et tu l'écoutes ?
Ouais. Je l'écoute souvent. Quand je fais la route travail, boulot, travail.
Ah, ben, c'est bien. Et tu l'écoutes à quelle heure ?
Bah écoute, ça peut être tôt le matin, comme ça peut être le soir.
Ouais. C'est Kim, mais peut-être c'est nous aussi.
Ouais, c'est. Si, ça arrive. Mais souvent, c'est Kim.
Parce que c'est mon pote.
Là, je passe la journée, même s'il n'est pas là aujourd'hui.
Et Kim, le canari, il nous écoute. Il nous écoute quelquefois, Kim.
J'espère qu'il nous écoute.
Ouais, comme pas mal d'auditrices et d'auditeurs de Beurre FM. Allez, on commence cette émission avec justement du football. Il y en a tant.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, Kamel. Elle a été lancée en 2014, cette application Tonser, et elle fait des ravages, c'est vrai. Des consultants sportifs, des scouts quoi, s'y mettent et y adhèrent facilement, en parler et peut-être donner la chance à ces pépites du football, quelquefois un peu perdues, que ce soit dans la région francilienne, mais aussi ailleurs. Tu en penses quoi ? Ça permet d'éclore peut-être ?
Moi, je pense que c'est une arnaque. Je suis désolé, Bilal, de te le dire.
Ouais, carrément.
J'ai lu attentivement tout ce qui s'est dit sur cette application et une interview du recruteur. Donc, soit il prend les acteurs du football pour des ânes. Hein, il pense que tous les footballeurs, c'est des ânes. Ou soit il n'est pas sérieux, quoi. Il vend sa cam. Donc, il y a un moment donné, c'est juste une application qui recense les joueurs avec des algorithmes. Hein. Vous savez, je l'avais dit déjà par rapport à certains entraîneurs. Bientôt, ils vont nous sortir de l'intelligence artificielle, tu vois. Ils vont mettre des manettes sur les joueurs et ils vont les faire jouer comme sur une PlayStation. Donc, à un moment donné, ils demandent aux jeunes de rentrer toutes leurs informations sur eux, hein, pied droit, pied gauche, jeu de tête, et après il y a un algorithme qui fait le tri. Waouh, super, c'est un algorithme quoi. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas à la bourse, on n'est pas, tu vois.
Ouais, mais ils aimeraient avoir beaucoup plus d'informations pour essayer après de.
Mais c'est juste une arnaque parce que quand je lis, hein, j'ai relevé quelques mots. Hein, mon application est faite pour un football plus juste. Non, je pense pas. C'est faite pour te remplir les poches, premièrement.
Quand même pas, quand même.
Ah si. Conçu pour le joueur amateur. Non, c'est conçu pour toi. Je pense que c'est plus pour les clubs pro. Oui, c'est plus pour les clubs pro. C'est un outil supplémentaire que tu vas donner aux clubs pro pour aller recruter des gamins. Et je pense et là où il y a une supercherie, c'est que. Moi, je suis d'une période, je suis des années 70, tu vois, 65. Oui,
ça va, tu es encore jeune. Hein.
ça fait, c'est pas trop jeune, mais à notre époque, oui, c'était compliqué d'être footballeur professionnel parce qu'avant, il fallait faire partie des gros clubs comme le PFC, comme le Stade Français, comme le Red Star. Si tu venais d'un petit club, tu pouvais être le meilleur du monde, ils te recrutaient pas. D'abord, ils te demandaient dans quel club tu joues. Là, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tous les éducateurs, tous les scouts, c'est impossible qu'un jeune passe au travers. C'est strictement impossible. Je mets au défi le créateur de cette application de trouver un jeune qui est passé à côté d'un des clubs. C'est-à-dire, même les éducateurs mettant des clubs de football amateurs, c'est devenu des recruteurs. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, mais à tout le monde. Même le papa est devenu recruteur et agent aujourd'hui.
Même l'épicier du coin, c'est un recruteur.
Ouais, ça fait un aussi,
donné,
à mon avis.
Il y a un moment, c'est strictement impossible. Donc peut-être. Là, il a travaillé pour le Red Star, il recrute pour le Red Star, il brasse un maximum d'enfants, ils font venir les enfants, ils font des détections, et après, il les donne au club pro. Mais il n'y a aucune. Il y a aucune chance de réussir. Si t'es bon, tu réussis. Si t'es pas bon, tu réussis. Et même si t'es pas bon, t'as d'autres encore possibilités de réussir. Parce que tu peux ne pas être pris sur une détection et être pris sur un autre, etc. Mais déjà, des gens qui parlent algorithme, pour moi, ils connaissent rien au football. Parce qu'un joueur de football, ça se voit sur le terrain. D'accord? C'est un sportif, ça se voit sur le terrain.
Ouais, justement. Adil, on écoute. Alors, réaction. Après Kamel.
Je connais pas cette application, c'est la première fois que j'en entends parler.
Ouais.
Mais on sait depuis des années qu'il y a des clubs qui utilisent la simulation de football, Football Manager, pour justement voir le potentiel de certains joueurs à travers un algorithme au fil des saisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que maintenant une application est complètement dédiée à ça. Et moi, je pense pas que ce soit une arnaque. Je pense que le qualifié d'arnaque, c'est assez gros.
Ouais.
Parce que ça sera toujours un outil supplémentaire pour les clubs ou pour les scouts. Après, dire qu'avant, c'était très dur d'être footballeur professionnel. Ok, c'était très dur et c'est pour moi encore aujourd'hui. Ouais, et voire d'autant plus.
Non, je te parle dans la détection.
Dans la détection
des joueurs.
Dans la détection des joueurs. On voit très bien récemment un cas qui a assez.
Alors lequel?
Le cas Antoine Griezmann.
Griezmann qui est passé au travers des filets pour
pratiquement tous les centres de formation de France.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'en France, le souci c'est que les recruteurs étaient quand même bloqués sur des critères.
Sur des algorithmes, sur leurs critères. Critères, ils ont des critères informatiques, des critères algorithmes. C'est-à-dire, ils disent dès le départ, nous on veut recruter des joueurs de 1m90, 90 kilos, voilà, qui ne savent pas jouer au football, on s'en fout. Voilà, donc toi tu vas arriver, tu fais 1m70, t'es un super joueur de football, ils vont te mettre à. Comme Griezmann, comme Ribéry, comme tout ça. Donc à la limite, pourquoi? Parce qu'ils sont informatisés ces gens-là, ils sont derrière leur ordinateur, ils n'ont jamais mis les pieds sur un. Moi, un footballeur. Comme toi, dans ton sport, tu verras en regardant un combat, tu vas dire celui-là, il est bon, il n'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'être derrière un ordinateur et de mettre en place des algorithmes.
Ouais. Alors, vas-y, n'aie pas peur, parce que Kamel, il y va. Non, mais les gars.
Il a raison.
Je ne sais pas entendu pour le moment. Hein.
Donc, Messi, il n'aurait aucune chance en France.
Oui, voilà, Messi, actuellement, il vient. Non, je te promets, il vient en France, il n'aurait aucune chance d'être pris avec les algorithmes, parce que les gens, ils disent 1m90 minimum. Messi, Iniesta, Xavi. Voilà.
Peut-être qu'on l'aurait jamais vu.
Bien sûr, on l'aurait jamais vu.
En France,
mais justement, dans ce cas-là. Tu es d'accord pour dire qu'il y a tellement de gens protocolaires qu'on peut quand même passer dans les mailles du filet. Parce que si on reste bloqué sur ces. Aujourd'hui, je ne connais pas actuellement les protocoles des centres de formation. Mais on peut très bien passer dans les mailles du filet s'il n'y a pas la personne qui voit qu'on est différent des autres et qui accepte cette différence et qui la cultive.
Mais comment tu veux qu'il voit? Parce que par exemple, j'ai t'expliqué par rapport à cette application. Tu remplis un questionnaire. Je suis U15. Je mesure 1m52. Parce que j'ai pas fini ma croissance. Lui, il va voir un autre 15, il mesure 1m80. Il va prendre lequel? Sans regarder jouer.
1m80.
1m80. Donc automatiquement, tu es obligé de passer à côté. Je veux dire, avec. Les détections avec l'Air Fontaine, c'est basé sur quoi?
Alors, sur quoi, Kamel? Dis-le pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM.
C'est un truc de fou. C'est-à-dire, le football, techniquement, le football, technique, intrinsèque. D'accord? Ce qui nous a fait grandir. Attends, je termine. Hein.
Ouais.
Il est à 20%. Ils vont te demander. Combien tu cours au 100 mètres? Tu fais de l'athlétisme. Hein. Combien tu cours au 100 mètres? Combien tu fais de jongles de la tête? C'est vrai, quand tu vas jouer au foot, tu vas faire 200 jongles de la tête, etc. Donc, c'est basé sur. On te note sur ça. Et souvent, si t'es pas bon un jongle, etc., ça te fait descendre ta note et automatiquement, tu seras pas pris. Donc, il y a un moment donné, laissez parler le football. Stop, basta.
Je suis d'accord. Mais là l'application, sans vouloir parler à la place du créateur.
Oui, Adil.
Parce que des actions, je pense que l'application.
Peut-être,
c'est comme Adil. Tinder. Je vois ça comme Tinder. Je vois ça comme Tinder.
Ah, carrément.
C'est simple, dedans. C'est de la mise en relation. C'est pas parce qu'on a vu ce footballeur sur l'application que forcément c'est bon, je veux ça. C'est de la mise en relation.
C'est-à-dire la mise en relation.
Non mais c'est ce footballeur, il y a un profil intéressant, on lui laisse la chance pour aller le voir.
Laisse pas la chance.
C'est comme sur Tinder. Sur Tinder, tu vois une fille, c'est pas pour que ça devienne ta femme tout de suite. D'abord, c'est un rendez-vous.
Je me permets de m'inscrire en faux, pourquoi? C'est un algorithme qui écrème plus de 300, 400, 500 joueurs pour arriver à 30 joueurs. C'est l'algorithme qui va te dire quel joueur il va venir à la détection. C'est pas l'éducateur, c'est l'algorithme. c'est une machine. C'est, mais on rêve, on ça marche sur la tête. Quoi. Ça veut rien dire. Mm-hmm. C'est ça qui est aberrant. Et après, une fois que l'algorithme a écrémé, fait venir les 30 joueurs,
oui.
L'éducateur, il va avoir 30 joueurs. Mais ça se trouve, l'algorithme, il a laissé passer Messi, Zidane, Mbappé. C'est tu ça. Sais pas.
Sur ça, je t'en rejoins. L'algorithme, j'avais pas compris sur
bah
le
c'est
l'algorithme.
Ça.
Oui, Sam, on l'écoute. On l'a entendu trop. Oh, allez, on les entend entendu. Ouais, ouais, bah, bah. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Le minon, il est bon, là. Ouais. Adil, il est bon. Ouais. Ah, la pub. On va arriver, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oui, Sam, on l'écoute, justement.
Ce qui peut être intéressant avec ce genre d'application, c'est de suivre sur ce genre de joueurs amateurs les chiffres, en fait. C'est-à-dire, sur les joueurs professionnels, on va savoir que sur 100 tirs, il va en marquer 50. Sur un joueur amateur, on va pas forcément savoir ça. Et si, grâce à une application, on arrive à suivre ce genre de chiffres, c'est-à-dire que sur tant de ballons touchés, il a réussi tant de passes, tant de buts.
Toutes ces statistiques, ouais.
C'est des
contraintes physiques, en fait.
Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des statistiques. C'est-à-dire, ils te regardent pas sur un match. Tu vas remplir remplir tes statistiques à toi. Et après, l'algorithme, il va écrémer. Il va prendre les 30 meilleurs par rapport à lui. Et après, les 30 vont jouer. Et c'est là qu'ils vont voir si t'es bon ou t'es pas bon. Mais moi, il y a où je suis pas d'accord, c'est que au-delà de ça, je suis là. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est encore un outil. C'est des gens qui créent des outils en disant on va aider le football amateur, alors que c'est faux. Moi, je déteste ça, cette hypocrisie. J'étais président de club pendant 10 ans. Je suis dans le football depuis tout petit. Ils sont là pour gaver. Dis-le directement. On travaille pour les clubs pro. On fait le boulot des clubs pro. On leur retire un peu de travail. On fait venir tous les gamins chez nous. Après, ils partent. Et le club pro, il est là. Dis-le. Voilà, ça reste du business. Voilà.
Ah oui, stop.
Tu vois, je veux dire.
C'est du business.
Ouais, on le sait.
Le foot, c'est pas au départ, le foot, c'est pas du business.
Au départ,
les sports de combat aussi.
Oui, mais tout est question de business.
Au départ, je terminerai sur ça, je te laisserai Achille.
Et on va voir Achille aussi.
J'ai toujours dit, d'accord. Un automobiliste, avant d'être automobiliste, il est piéton. D'accord. Il est piéton. On n'est pas né avec une voiture. Un footballeur professionnel, tu prends n'importe quel footballeur professionnel au monde, je te prends au défi. Avant d'être pro, il est quoi? Il est amateur.
Bien sûr.
Donc le football, intrinsèquement, le football dans ces clubs-là, c'est du social d'abord.
De base.
Et après ça monte en truc. Mais au départ, la base, c'est social. C'est faire du football. Et après, les meilleurs vont aller plus haut, comme dans tous les sports. Ça peut être le sport jiu-jitsu, etc. Mais il y a un moment donné, ces gens qui rentrent dans ce business avec les applications pour faire dire je vais aider le football amateur, arrêtez de nous prendre pour des abrutis. D'accord. On n'est pas des cons. C'est une atteinte à notre intelligence. D'accord. Donc, dites cash, c'est du business. Je vais prendre ma commission sur un joueur quand le restart va le prendre. Et voilà, on sait à quoi s'en tenir.
Achille, avant la pause, on l'écoute.
Bonsoir à tous.
Ouais.
Salut. Ravi, j'ai entendu tout ce qui s'est dit un petit peu.
Il y a eu des débats quand même.
C'est assez intéressant.
Avec Wissam, avec Adil.
Je vais aller à l'encontre de Kamel. C'est pour une fois que quelqu'un fait quelque chose pour le football amateur, pour pouvoir promouvoir certains jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être vus. Parce qu'ils n'ont pas les contacts, le coach n'a pas forcément les contacts. Alors après, peut-être qu'il y a du business, peut-être qu'il y a ceci, peut-être qu'il y a cela. Mais si, après, il faudra éventuellement ressortir les chiffres, mais si on s'aperçoit que, je ne sais pas moi, sur 100 jeunes qui sont passés par cette application, il y en a 20 ou 30 qui ont eu la possibilité de se faire repérer par des clubs professionnels, eh bien, pourquoi pas ? À un moment donné, si l'application ne sert qu'à faire du business, eh ben c'est le moment de venir en parler, en discuter, de telle sorte à ce qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans l'intérêt du joueur et éventuellement dans l'intérêt du développeur. Mais sinon, je ne peux pas aller à l'encontre de quelqu'un qui emmène quelque chose de nouveau dans le football amateur qui est manque de peau, n'est vraiment pas beaucoup aidé par le football professionnel.
Je vais juste citer une phrase du concepteur. Hein. Mm-hmm. Il te dit, l'application travaille avec des clubs, des recruteurs, mais aussi des marques. Si ça, c'est pas du business, je m'appelle pas Kamel.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si aujourd'hui, Kamel, toi, t'as été joueur de foot, Kamel, mais si à ton époque, il y avait eu cette application, peu importe qu'elle fasse du business ou qu'elle n'en fasse pas, et que t'as ton coup de chance, toi et ta chance, etc., tu te fais repérer grâce à ça.
On n'a pas besoin de cette application actuellement.
Aujourd'hui, on est à une ère numérique, Kamel.
Oui, mais non, arrêtez.
Il n'y a pas de problème.
Je me permets de rentrer vite.
Bien sûr, on l'écoute, notre invité.
Depuis tout à l'heure, arrive à conclure en ayant des belles citations. Je suis parti également regarder sur Internet. On voit dedans, alors, un joueur qui s'appelle Enzo Lefebvre, qui a 15 ans, un gardien de 15 ans, qui dit qu'il s'est inscrit sur l'application dans l'optique d'être opéré. On lit également qu'il est possible de renseigner, exactement comme Kamel l'a dit, sa taille, son pied fort, son style de jeu, mais également des vidéos de match et les statistiques avec les joueurs de son équipe. Rien que le fait d'avoir accès à l'image permet d'approuver les statistiques et également de faire voir que le joueur n'est pas que des statistiques, c'est également un joueur sur le terrain. On peut voir des vidéos, etc. Donc je pense que là, on est moins dans l'ère de l'algorithme, mais également plus sur du visuel. Il a une fiche. Le joueur a une fiche. Donc même s'il n'est pas pris dans l'algorithme, sa fiche existe.
Je vais aller dans ton sens. Je vais être gentil, je vais aller dans ton sens, Adil.
Alors, Kamel, d'aller dans mon sens.
Je vais aller dans
mon
sens, mais pas longtemps, parce que moi, je ne vais pas souvent dans. Parce que j'ai mes idées bien préconçues. Je vais t'expliquer.
Ouais, Kamel, c'est
avant
sûr, c'est
qu'Internet.
Pas combat, là.
Avant. Et je vais le dire aussi à mon ami Achille. Avant qu'Internet sorte, tu vois. Dans le football, il le sait très bien, professionnel. Combien de joueurs professionnels ont été recrutés sur cassette? Combien? Des dizaines, des centaines, qui venaient du Brésil. Et quand ils sont arrivés, ils les ont vus sur cassette. Waouh! Ah, il fait reprise de volée. Waouh, super, 3 minutes. Et il vient sur le terrain, c'est une trompette. Il ne sait pas, il n'est ni pied droit, ni pied gauche. Donc, les vidéos, demain, je peux te faire une vidéo, je suis le champion du monde de boxe.
Mais j'imagine qu'il y a autant de bonnes surprises que de mauvaises surprises.
Non, pas non plus. Parce que s'il y a une bonne surprise, t'as pas besoin de ça. Ils sont repérés tout de suite, les gamins. C'est obligatoire. Je connais. Il y a un tel maillage, tu vois. C'est fait pour. Parce qu'il y a les détections. Tu sais comment ça se passe? Ton meilleur joueur, même s'il n'est pas détecté par un club pro, il va être dans l'équipe du district. D'accord? Les U13 du district, par exemple. Ça regroupe tous les clubs de Seine-Saint-Denis. Il va jouer en régional, etc. Ça va monter. Il va monter en gamme. Il va dans l'équipe du district. Il va se faire repérer automatiquement. C'est obligatoire. Maintenant, qui disent c'est du business, c'est tout stop. Qu'il arrête. Non, on n'a pas besoin de ça.
N'Golo Kanté, Griezmann, tout ça.
Ils sont passés à la trappe.
Voilà. Ouais, ça fait des. Je veux juste revenir à un point.
Alors Achille,
en France, je comprends pas pourquoi il y a toujours ces clivages, ces clichés. Oui, on apporte de la nouveauté. Aujourd'hui, le football amateur français, il est victime de ses entraîneurs. C'est-à-dire que les entraîneurs ne pensent pas forcément au bien des enfants. Dans le football amateur, c'est-à-dire qu'il préfère avoir une équipe compétitive pour pouvoir gagner son championnat ou faire ceci ou faire cela plutôt que de faire jouer l'enfant et éventuellement s'il y a la possibilité de le faire monter plus haut ou de l'envoyer dans un autre club qui est peut-être plus prestigieux où le petit il aura peut-être sa chance. Bah, il le fait pas forcément. Il y a trop de cas.
Tu vis dans le monde du
business. Il y a trop de cas. Et moi, je suis d'un football beaucoup plus récent que le tien, sans vouloir te manquer de respect.
Non, moi, je suis dans le football aussi.
Pas du tout.
Je suis même plus dans le football. Même actuellement, je suis plus parce que je le compare à mon football à moi. Et donc, j'avance en le comparant.
On termine avec toi, Achille, rapide.
C'est qu'aujourd'hui, les coachs français, contrairement aux étrangers, ils se disent oui. Ben, le petit, il doit rester. J'ai besoin de lui. Non, je n'envoie pas en détection parce que j'ai besoin de lui. Il y a un gros match là. Or que.
C'est rare.
C'est pas rare. C'est rare. Beaucoup plus fréquent.
C'est rare. J'étais président de club pendant 10 ans. C'est rare.
Des applications.
Et 10 ans, c'est il y a 4 ans. C'est pas.
Si
aujourd'hui, tu as
des applications qui te permettent de pouvoir voir certains joueurs. Éventuellement, après, c'est vrai qu'il y a un algorithme, etc.
Tu sais pas comment ça fonctionne, Lachie. Tu sais pas comment ça fonctionne. Tu sais pas.
Si t'as la possibilité.
Dans le recrutement, tu sais pas.
Par n'importe qui.
Un recruteur. Un club. Voilà.
Merci.
Attends, moi, je l'ai vécu. J'étais face à des recruteurs. J'étais face au recruteur de l'Inter de Milan. Il arrive, le recruteur, le club, il te dit voilà, Kamel. Dans ta catégorie U13, j'ai besoin d'un défenseur central.
Merci,
Kamel.
Il faut
qu'il fasse 1m90. Tu présentes un défenseur
vous
central.
Restez
même
avec
s'il
nous.
Est bon à 1m50, tu le prends.
Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, et oui, le débat continuera même pendant la pause. Une courte pause, la première, avant de revenir avec le Jiu-Jitsu.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à 20h. On vous le rappelle, toujours en compagnie de Wissem, de Sef Haïdéné et aussi. C'est ça. Non, je me mens quand je dis le nom. Je sais pas pourquoi, parce que Safe Din. C'est bon.
Ou Safe, tout court.
Parce que moi, j'aime beaucoup le prénom de Salah Din. On sait pas pourquoi, mais on va savoir. Adil avec nous aussi. Kamel Aïd Kera est avec nous, sans oublier Achille. On va s'attarder après le football sur le fameux Jiu-Jitsu.
Il n'y a pas que le football maintenant.
Que le football. Mais justement, on accueille toujours, les gars. Nous, les sports de combat dans cette émission, on en parle fréquemment, vraiment. Et on aimerait s'attarder avec vous sur cette fameuse discipline qui est le Jiu-Jitsu. Et justement, avec toi aussi. Parce que le Jiu-Jitsu est une discipline aujourd'hui qui est assez incomprise, parfois. Par certains. Déjà par les amoureux, on va dire, du sport de combat au sein même des médias, elle n'est pas beaucoup retransmise, c'est pas une discipline que l'on voit à chaque fois, mais aussi à travers les fédés qu'ils ont des qui se font un petit peu la guéguerre à l'approche aujourd'hui du MMA, des sports free fight, si je peux me permettre. Aujourd'hui, où en est-on avec cette discipline? Parce qu'on a l'impression que le jiu-jitsu, comme on en parlait tout à l'heure avant le début de cette émission, qui est un peu si je peux me permettre, bafoué en France, est plutôt reconnu à l'étranger, et notamment ses athlètes.
Bah parce qu'en France, je crois, il y a la fédération de judo qui est vraiment puissante.
Assez forte.
Et il essaye de faire de l'ombre un peu à la fédération de jiu-jitsu. En France, on n'a pas vraiment fédération de jiu-jitsu, on a une confédération de jiu-jitsu brésilien. Donc voilà quoi, il y a un peu de ça. En même temps, en fait, il y a deux grandes fédérations internationales. Il y a une fédération internationale de jiu-jitsu brésilien, il y a une autre fédération internationale de jiu-jitsu qui est reconnue, qu'on appelle, en fait, ils ont changé le nom de jiu-jitsu en Iwaza. Donc il y a des compétitions plus professionnelles. Tu représentes ton pays. Alors par contre, on est BJF, tu représentes quoi ton club?
Ouais.
Voilà.
En fait,
alors justement, Agile, chaque fois champion de France de jiu-jitsu brésilien, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça.
Alors on l'écoute. Pour poursuivre.
C'est simple, jiu-jitsu brésilien,
ouais.
La fédération principale dans le monde, celle qui va faire que t'es un champion du monde, que t'es un champion d'Europe, c'est l'IBJJF. Quand tu gagnes à l'IBJJF, là t'es reconnu, on n'a rien à dire. Tu gagnes un titre de champion du monde à l'IBJJF, tout ce que tu veux, ça sera dans ton CV, ça sera dans l'histoire.
C'est à peu près la WBA, WBC quoi.
Exactement, c'est des fédérations privées, privées. Donc c'est-à-dire que les compétitions sont payantes. Le but de l'entreprise, c'est comme l'UFC, le but c'est de générer de l'argent, on en revient au business.
Ouais.
Derrière, le souci, quand on arrive dans un pays comme la France, où le sport... En France, c'est même pas le jiu-jitsu brésilien qui apprend, c'est l'image du sport en France. L'image du sport, quand tu vas déposer ton enfant à l'école, au sport, dans ta tête, la personne qui va être là et qui va donner cours à ton enfant, le professeur sera un bénévole. Moi, plusieurs fois, j'ai 24 ans, j'ai fait des longues études et aujourd'hui, j'ai pris la décision de vivre du sport. Quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je réponds du sport, les gens disent, mais non, mais ce que tu fais vraiment dans la vie, c'est ce souci-là.
Et en quelque sorte un tabou en France. C'est vrai.
On voit pas les choses de manière vraiment sérieuse. Donc il y a pas d'argent derrière.
Ouais.
S'il y a pas d'argent derrière, les sportifs ne peuvent pas être aidés. C'est ça le souci.
Mais comment on l'explique justement? La France va accueillir quand même Paris 2024, les Jeux Olympiques. Comment l'expliquer? Parce que d'une certaine manière, on voit en région Île-de-France quand même, c'est incroyable toutes les infrastructures qui sont mises à disposition avec l'INSEP et même aux quatre coins de l'Hexagone. On sait d'où ça vient. Vous êtes dedans, Adil.
Je dirais déjà premièrement, je dirais par le prix des cotisations. Prix des cotisations.
Ouais.
Pour être allé deux fois à Los Angeles cette année et m'être entraîné dans des clubs. Là-bas, même un club qui n'est pas réputé. Le mois, ça sera $150. $150. En France, c'est le prix qu'une famille va être prêt à payer à l'année. Donc déjà, dans ce fait-là, le fait que ce soit plus cher les cotisations, il y a plus de rémunération pour les professeurs. Deuxièmement, il y a également en fait ce souci de moyens mis. Aux États-Unis, la personne à qui je demandais qui va ouvrir là son troisième club, alors que en trois ans d'existence, il ouvre sa troisième structure. Je lui demande pourquoi. Il me dit parce qu'on a des subventions. Il y a l'État californien qui de manière privée nous aide, car on lutte contre l'obésité. On a une solution contre l'obésité. On a une solution également contre la délinquance des jeunes. En France, on ne mise pas sur le sport dans l'éducation des jeunes. C'est premièrement les études. C'est ça. Et le reste, c'est les études, c'est un plan A. Et tout le reste, ça sera des plans B, C, D, E, F, G. Donc il y a ce souci-là. C'est D. Une carrière de sportif à 35, 40 ans, c'est fini. Donc si on veut avoir des bons sportifs, si on veut avoir des sportifs qui sont compétents durant leurs 18 ans jusqu'à leurs 30 ans, voire plus pour certains, il faut miser dès la jeunesse sur ces sportifs-là. Donc voilà un élément de réponse que je peux apporter.
Kamel, avant d'avoir Wissam aussi qui va réagir.
Alors, deux réactions par rapport à ce que tu as dit. Moi, je pense que le système américain n'est pas viable.
Ouais, c'est pas le même aussi.
150€ la licence par mois, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'enfants qui feraient du sport en France.
Parce qu'en fait, y a pas de, c'est pas comme en France. En fait, France, faut pas se mentir. Franchement, la France, faut pas se mentir. On a tout ce qu'il faut en fait. On a des salles municipales, on peut s'entraîner gratuitement. Alors aux États-Unis, il faut payer.
Voilà, c'est ça. Donc, au Maroc, il faut payer.
Il y a toujours privé.
Donc, ouais, vive
en
ça,
France, ça fait en des... France, on a des structures, on paye rien du tout.
Ouais.
Comme moi, par exemple, mon club, la Boulogne-Billancourt.
Ouais.
Franchement, on a une structure magnifique. On paye presque rien. On paye 200€ à l'année.
Donc, parce que c'est des subventions d'État. Donc, Donc, moi, je pense que le système français, il a des lacunes au niveau sport, hein, il n'y a pas de problème, hein, parce que moi, je l'ai vécu en tant que président quand j'allais chercher des subventions, etc. Par exemple, je vais donner un exemple qui est assez aberrant. Conseil général, quand tu fais une conseil général, ils ont un budget. Tu sais, ceux qui gèrent le budget. Le budget pour. Donc, ils donnent aux écoles, aux lycées, etc., les routes, etc. Donc, c'est compliqué. Mais il y a deux postes où ils sont pas obligés, où un conseil général n'est pas obligé de donner des subventions. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, pour les écoles, t'es obligé, la loi t'oblige à donner, par exemple, 20% de la subvention du conseil général. Il y a deux postes, la culture et le sport. Je t'en rejoins, c'est aberrant. Ça veut dire qu'on ne veut pas cultiver nos enfants et on ne veut pas qu'ils fassent du sport. D'accord ? Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu. Alors, ça devrait être obligatoire, normalement. Tu dois subventionner l'école, la culture et le sport. Le gamin, il va s'épanouir avec la culture et le sport. C'est et surtout dans les quartiers, toi, ils ont besoin de ça. Donc, je pense que là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faudrait qu'il. Et en France, on n'a pas cette. Comme en Allemagne, etc., cette fibre. Voilà, comme ça. Il y a trop de choses. Il n'y a pas la fibre. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un juste milieu entre les États-Unis et ce que fait la France. C'est-à-dire blinder au niveau
des structures.
Aider tout ce qui est sportif, comme vous, de haut niveau, mais en dehors du foot, parce qu'il faut qu'ils vivent, comme la judoka, les judokas, les boxeurs, tout ça, pour une fois qu'ils deviennent champions de France, leur donner une bourse pour qu'ils atteignent le truc et les aider financièrement pour pas qu'ils se retrouvent à galérer, etc., et à arrêter. Donc c'est là où vous devrez sortir un budget pour aider ces sports amateurs, ces sports.
Voilà. Exactement.
Oui, Achille, peut-être une réaction concernant nos champions aujourd'hui avec nous, dans ce studio.
C'est vrai, je vais rebondir un peu sur ce que Adil et Kamel ont dit. C'est le moment de choisir, en fait. C'est vrai que quand vous êtes aux États-Unis, c'est un monde totalement différent, une mentalité totalement différente, où c'est l'argent qui prime. Ici, on a quand même la chance, comme tu le disais, de pouvoir avoir des structures, du moins, qui nous permettent de faire du sport. Et sur le point sur lequel Kamel vient de rebondir, donc avec les conseils régionaux et ainsi de suite, il y a les municipales qui arrivent. C'est le moment, effectivement, lorsque vous, auditeurs et auditrices, vous faites le choix d'aller voter, pensez bien à regarder le programme de chacun des candidats, à bien regarder ce qu'il y a de la place, effectivement, pour vos enfants, à défaut que pour vous, dans les centres culturels, dans le sport, ou même d'autres secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, si il n'y a pas forcément plus d'argent dans le milieu du sport ou le milieu de la culture, la faute à qui ? C'est la faute à nous-mêmes, en fait. Exactement. En soi, à mon humble avis.
Ouais. Exactement. Et,
Adil.
Et de manière générale, c'est important que les Français, que les auditeurs changent leur manière de voir les sportifs. Les sportifs, pour être sportif professionnel, il y a vraiment... Il faut sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué. Je peux dire que j'ai fait des longues études. Et j'ai une carrière de haut niveau, l'un des deux est 100 fois plus dur que l'autre. 100 fois plus dur. Par le sport, dans l'éducation, je suis sûr que chaque enfant peut s'y retrouver, chaque parent peut s'y retrouver, il y a des valeurs qui sont inculquées, il y a tout ça et c'est important de pousser le sport et de mettre en avant le sport. Parce que le sport, ça va permettre à l'enfant de se développer, de se découvrir, de sortir de sa zone de confort d'avoir des objectifs. C'est une école de la vie.
Ouais. Oui, Sam, on l'a pas entendu. Justement.
Adil, on dirait qu'il est en campagne électorale.
Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est bien.
Important. Ah,
c'est
important.
Bon à entendre. Adil Salih, un champion d'Izitsu avec Safeddin. C'est bien ça.
Oh, c'est ça.
Ouais.
Safeddin,
ouais. Ouais,
c'est
Safeddin, ça.
Appelle le Sylvain.
J'ai peur, ouais.
Appelle-moi ça.
Appelle-moi champion.
Non.
Champion.
J'ai tout rouge, moi.
Appelle-moi Safe BGG. Ça fera de la publicité. Voilà, ça fera de la publicité.
On va les donner après, les comptes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Oui, Sam, on va l'écouter.
Pour dire sur ce que dit Adil sur l'éducation, c'est vrai que le sport apporte vraiment quelque chose aux enfants. Mais au-delà des enfants, il y a beaucoup de gens qui commencent le jiu-jitsu et qui changent en fait leur mode de vie. En fait, c'est vraiment le jiu-jitsu, c'est quelque chose, c'est un sport. Quand on rentre dedans, on est très vite piqué. En fait, on est très vite accro. Au bout de quelques mois, on passe tout notre temps libre au jiu-jitsu.
Dis-le que t'es un ancien toxico.
Non, même pas.
On s'y rapproche. C'est-à-dire qu'en dehors du jiu-jitsu, on va regarder des vidéos de jiu-jitsu, on va parler de jiu-jitsu.
Hein, ce qu'il dit.
On va casser la tête à tous nos proches avec le jiu-jitsu.
Un peu comme
le
football. Bah là,
c'est pire. C'est même pire.
Bah moi, j'ai voyagé plusieurs fois au Brésil. En fait, je peux te dire que le jiu-jitsu.
Alors,
moi, je voyageais plusieurs fois au Brésil. Je peux te dire que je suis brésilien et a sauvé beaucoup, beaucoup de gens des favelas, de la drogue, tout ça, de la prostitution. Et les mecs qui se trouvent partout en Europe, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis.
Justement, mais c'est des vecteurs de réussite, c'est vrai. Le sport.
Franchement, oui.
D'une certaine manière.
Complètement.
Après, je suis d'accord avec vous, hein, parce que moi, j'ai œuvré pour ça. Mais après, c'est indissociable de À l'instant T, je parle. Hein. Je ne parle pas dans le futur. C'est indissociable des études. Et à un moment donné, bah, mon fils, il m'a dit, je vais être footballeur professionnel. Je lui dis, tu feras jamais, tu vas aller à l'école. Moi, je veux que tu ailles à l'école. C'est la, t'es sûr de réussir à l'école.
Sport-études.
Non, sport-études, c'est une arnaque, sport-études. Je vous le dis, c'est une arnaque. Bah oui, c'est une arnaque.
Adil.
Kamel, il a raison. Si on a l'occasion de faire des études, faut faire des études.
Oui, faut faire des études.
C'est important. C'est important. Mais le sport peut, dans certains cas, remplacer les études. Et je m'explique.
Ah oui, bien sûr,
je
suis d'accord.
Le conseil alors aux jeunes, Adil. Le conseil aux jeunes à donner ce soir.
Alors, je suis épanoui.
Fédine a raison.
Faites ce que vous aimez. Écoutez pas les gens qui vous disent. Faites s'il faut faire ça pour. Parce qu'en France, on va vous dire d'aller chercher la sécurité. Et la sécurité, c'est bien à un certain moment. Mais le temps, il passe. L'argent, une fois que c'est perdu, ça se récupère. Mais le temps, une fois qu'il passe, il revient pas. La jeunesse, on en a qu'une. Donc moi, je dis, avancez dans ce que vous aimez. Peu importe. Si c'est être pom-pong girl, si c'est faire du roller, tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous aimez. Et il y a toujours moyen de percer dedans quand on a la dalle.
Exactement, c'est vivre épanoui, c'est le plus important.
C'est ça. Ouais, le mot d'ordre. Vraiment. C'est comme du côté de Boulogne-Billancourt. Ouais.
Bon, nous, avec les jeunes. On a un question commun. Il est ingénieur.
Alors justement,
on parle de Laurent. Et l'ingénieur, il a tous les stands B pour faire un
pour faire un stand de fruits.
Ouais. Oui, un stand de fruits. Pourtant, il gagnait bien sa vie, mais le mec a changé. Parce que c'est vrai. Parce que moi, avant que je voyage pas beaucoup. Et une fois que tu commences à voyager, aller au Brésil, aller au Portugal, aller en Argentine, au Mexique, aux Émirats Arabes Unis, un peu partout dans le monde. En fait, la mentalité change. On change, c'est plus la même chose, la même personne.
Oui, on s'ouvre sur le monde, quoi.
Exactement.
Sur le monde,
mais quand même, les études, c'est important. Faut pas faire croire. Faut pas faire croire aux enfants, à tous les enfants de France, qui vont tous devenir des.
Les enfants, d'abord.
Les études.
Et après, il faut faire du sport.
Après, je suis désolé, mais les études, le sport n'est pas indissociable des études. Tu peux faire des études.
Bien sûr.
Il y a des millions de jeunes qui font des études poussées. Et qui font du sport parallèlement, que ce soit du jiu-jitsu, que ce soit de la boxe, que ce soit du MMA, que ce soit du football, peu importe. Le principal, c'est. En plus, tu as besoin de faire du sport parce que ça te permet de te laver le cerveau, surtout quand tu fais un travail stressant et l'école, c'est stressant, c'est important. Mais c'est vrai que là où il faut que l'État bouge, c'est sur les sports où la France gagne des médailles, où elles ont des champions du monde, des champions d'Europe, des champions olympiques, tous les sports de combat, que ce soit jiu-jitsu, que ce soit la boxe amateur, la boxe française, peu importe. Et mettre de l'argent sur les champions, les aider, c'est tout.
2024 pour Wissem, vous ferez quoi? Non, vraiment, je m'adresse à Wissem, mais pour 2024, pour vous.
2024.
Ouais.
Ça serait bien que le jiu-jitsu soit reconnu un petit peu.
Ça serait bien, bien sûr. En plus, les Français sont bien placés, quoi.
Ah, 2024.
Mais qui s'occupe en France de
vraiment, vraiment,
je sais. C'est la fédération du judo. C'est pour ça.
Ouais.
En fait, on a.
Ça le masque un peu. Alors, on vous écoute parce qu'il y a des gens qui s'interrogent.
Ça veut dire, je vais piquer là, hein, je vais piquer. Mais c'est volontaire, hein, je le pense pas. Mais ça veut dire, les personnes qui gèrent le jiu-jitsu, ils sont pas allés à l'école.
Mais non, tu peux pas dire ça, Kamel.
C'est
ça, c'était propos, Kamel.
Dans le sens, je dis ça, de vos dirigeants, ils devraient avoir les capacités intellectuelles et d'aller frapper à la Fédération française au ministère des Sports et de leur dire on veut pas être sous tutelle. Pourquoi le jiu-jitsu serait sous tutelle? Je comprends pas.
Alors, en plus, justement, la réponse en plus, avec vous.
En plus, professionnel. Pour commencer, pour moi, déjà, 2024, c'est une grosse déception parce qu'en fait, normalement, jiu-jitsu, au sein de la Fédération internationale de jiu-jitsu, il allait intégrer les Jeux Olympiques. Malheureusement, en fait, ils ont tout mis en œuvre pour que ce soit.
Alors, ça, c'est la médaille. Bon, on la prendra en photo, vous inquiétez pas, les éditeurs de Brest.
En fait, la Fédération internationale, ils ont tout mis en œuvre avec la Fédération émiratienne, ils ont mis beaucoup d'argent, comme ça que le jiu-jitsu intègre les Jeux Olympiques 2024. En plus, en France, ils ont une très bonne équipe de Nemaza ou de jiu-jitsu.
Ouais.
Et très bonne équipe, et ils gagnent beaucoup de médailles, ils sont parmi les premiers dans le classement mondial, toujours sont premiers, deuxième, troisième. Alors, ils se sont dit, comme quoi cette année, en 2024, le jiu-jitsu intégrera les Jeux Olympiques. Mais pour finir, grosse déception, ils ont pris d'autres sports. Le cricket, je crois, ils ont pris des
breaks. Bah, c'est ça. En fait,
moi, j'ai compris qu'en quoi la fédération de judo, il veut pas que le jiu-jitsu avance parce que ça gagne beaucoup, ils perdent beaucoup de licenciés. Et d'ailleurs, ils ont interdit aux judokas internationaux qui font les championnats du monde de pouvoir faire des compétitions en jiu-jitsu brésilien.
Ouais,
interdit, ils ont pas le droit.
Oui, c'est à mon terme rapidement. On termine rapidement.
Pour revenir aux différentes fédérations, on a trois fédérations et je sais que les gens se battent vraiment pour une meilleure mise en avant et une meilleure subvention. Donc
on reviendra justement avec nos invités. Ça fait Dean et aussi
ça va, tu fais des efforts.
Oui, Seb. Et Adil avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir avec Tovin, c'est promis. Mais on terminera avec aussi les championnats d'Europe de Gilles Dutieux. A de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Eh oui, toujours avec Achille, toujours souriant Achille, bien sapé comme jamais avec Kamel El Kaira, le 0153483000, tu les as fait fuir Adil, je sais pas, hein. Ce soir on nous appelle pas là. Et aussi Wissem est avec nous, on le rappelle, et sans oublier Saïfed Din, c'est bien ça.
C'est bien ça, c'est Saïfed Din, ouais.
Il est avec nous aussi, et oui, ce beau bébé justement, venu tout droit de Boulogne-Billancourt à Quadrup. Champion du monde de cet art martial, le Marocain, et le leader aussi d'un club, hein, de la banlieue parisienne qui est du côté de
Boulogne-Billancourt. C'est la, je peux dire le nom, c'est,
oui, bien sûr.
C'est la Z-Team. C'est la Z-Team.
Et on passe le bonsoir à la Z-Team.
Ouais, c'est professeur Zakaria Arhab.
Ouais.
Et en fait, on a plusieurs professeurs, Zakaria, Mathias. En fait, c'est cosmopolite. Hein. Il y a tout. Il y a des Algériens, des Tunisiens, des Français.
Il y a de tout.
Il y a des Colombiens. Il y a tout.
C'est, ah ouais, quand même.
C'est cosmopolite. Il y a tout le monde. Et voilà.
Justement, Wissem, pourquoi faire du jiu-jitsu aujourd'hui ?
Pourquoi faire ?
Hein ?
Pour plein de choses.
On a des questions là, parce qu'il y a des auditeurs qui nous disent oui, mais pourquoi le jiu-jitsu comparé au judo ou encore au karaté ?
Alors, le jiu-jitsu, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une ceinture noire, il faut au minimum entre 8 et 10 ans de pratique. Au judo, ça peut se faire en 3-4 ans. Le jiu-jitsu, c'est vraiment un sport qui est très technique, qui commence au sol. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment un sport qui est assez bizarre.
Ouais.
On voit des gens qui sont assis sur les fesses ou sur le dos et qui arrivent à combattre.
Ouais, j'ai regardé, mais c'est bizarre comme sport.
Faut venir essayer.
Ouais. C'est bizarre, mais
non, c'est bizarre. Non, mais qu'ils soient assis. Ouais, mais après, moi, je t'emmène sur un terrain, tu tiens pas une minute.
Ah, je te mets de cette vitesse.
Chacun son métier, jeune homme.
Après, ce qui est beau dans ce sport, c'est qu'on peut voir un petit de 60 kilos qui peut battre quelqu'un de 250 kilos.
Non,
ça veut viser personne, bien sûr.
Non, mais quoi, c'est-à-dire, Wissem, tu peux me faire tomber, ça fait des arts.
En fait, pour le coup, en fait, là, championnat d'Europe.
Ouais. Alors justement, c'est championnat d'Europe.
En fait, il y a deux catés. Soit tu combats dans ta catégorie.
Ouais.
Soit il y a ce qu'on appelle l'absolute. C'est toutes catégories mélangées. Comme dans judo, c'est la même chose.
Ouais.
Et en fait, moi, j'ai pris un mec qui est super connu, que tout le monde connaît. Comment ça, j'arrive pas à prononcer son nom.
Mikey
Mitsumichi, voilà. Ouais. C'est un petit qui pèse 62 kilos, 65 kilos, j'ai pas d'air avec lui, mais c'était litigieux, tu vois, c'était la décision. Voilà, en fait, je voulais faire un peu plus. En fait, moi, c'est toujours David contre Goliath, et parce qu'en fait, à la base du jiu-jitsu, l'essence du jiu-jitsu, c'est qu'un léger, il peut battre un lourd par la technique. C'est ça.
Pas faux.
Et donc on a fait un match nul, ils m'ont donné deux pénalités, bref. Et gagné, j'étais content. Parce que ça m'a fait beaucoup de publicité, parce que nous, franchement, en Europe, ils nous prennent Parce qu'en Europe, ils nous prennent pour des. Parce que c'est souvent les Brésiliens qui gagnent, et les Américains, un peu d'Américains.
Ouais.
Et les Européens, on n'est même pas reconnus. Donc
ouais,
franchement, moi, ça m'a mis beaucoup de publicité pour moi. Et les gens, ils ont commencé à me connaître. Et voilà.
Moi, ce qui est paradoxal.
Je connais en deux tirs.
Alors, moi, ce qui est très paradoxal. C'est que, bon, je m'intéresse au sport de combat, mais c'était plus la boxe anglaise, et de mon temps, c'est la boxe américaine. Mais, et là, peut-être que vous allez gagner en notoriété, c'est que j'ai connu le jiu-jitsu grâce au MMA.
Exactement.
Je regarde le MMA, l'UFC, quasiment tous les soirs. Je regarde, et c'est vrai que j'ai connu ça.
Mais c'est malheureux.
C'est
malheureux.
Oui.
Parce que j'ai eu ça à la base. En fait, le judo, le jiu-jitsu néwaza brésilien, ça vient à la base de jiu-jitsu traditionnel.
Oui.
Et donc, en fait, MMA, parce qu'il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'influence, c'est médiatisé,
mais c'est
privé.
Pour vous.
Oui, c'est
positif. Quand ça va être validé en France, oui. Parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que le jiu-jitsu, le MMA va être pris par la fédération de boxe et pas par la fédération de judo.
Pour l'instant, c'est pas sûr encore.
La boxe, elle est en avant. Mais ça soit mieux que, pour moi, personnellement, pour le jiu-jitsu, c'est mieux que ça soit la fédération dans votre intérêt. Que ce soit la fédération de boxe qui prenne plutôt que le judo, parce que le judo risque d'enterrer le MMA.
Non, judo, c'est contraire, ça. Ouais.
Oui, ils vont pas l'exposer.
Adil, rapidement.
Le MMA, tout ce que je vois, c'est grâce au MMA.
Voilà, oui.
Ça sera plus connu, tout simplement. Faut pas aller chercher plus loin.
C'est vrai.
C'est de la visibilité qu'il faut.
Bien sûr, et c'est important.
Pourquoi le jiu-jitsu brésilien, c'est pas si connu que ça? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un sport rapporte de l'argent, pour qu'un sport soit populaire, il faut qu'il soit télévisuel. C'est-à-dire que même des personnes qui ne pratiquent pas ce sport puissent comprendre en regardant. Et comme tu l'as dit, Kamel, pour les non-initiés, ça sera pas logique de voir un mec en dessous qui domine le combat. Alors qu'en jiu-jitsu brésilien, un mec peut être en dessous et dominer le combat. Faut juste comprendre un truc, c'est que je suis un mec qui aime beaucoup tout ce qui est stratégie, etc.
Ouais.
j'ai jamais vu un sport aussi stratégique que le jiu-jitsu brésilien. C'est une partie d'échecs. On le dit juste, ouais, c'est un jeu d'échecs une vivant.
Ouais. Un mélange de partie d'échecs et de bagarre.
C'est une partie d'échecs. Je
exactement.
Vois.
Ouais,
je
si vois. T'es aussi, malin, aussi. Si t'es malin, si t'as un cerveau, c'est une des plus grosses qualités et tu peux battre n'importe qui avec ton cerveau, avec de la technique, avec un mélange de tout.
Ouais. Alors, juste une question. Est-ce que tu tires la garde?
Je tire la garde. Je tire la garde et j'assume.
Oui, Seb. Justement, on poursuit. Ouais. Les propos. Alors.
Mais par exemple, d'Europe. Juste une question, Issam. Si demain le MMA est légalisé en France, est-ce que.
Il est légalisé.
Non, il ne savait pas encore. Bientôt, il faut que ça soit
légalisé. Non, en mars.
C'est en cours.
En principe, c'est en cours.
Si demain, je pose une question, je peux vous poser ça à toi. Est-ce que demain, toi, vous feriez aussi du MMA parallèlement ou pas?
Alors, moi.
Est-ce que vous auriez un avantage?
Ça serait pas mal.
Non, en fait.
Je pose la question, je ne sais pas.
Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on va gagner, nous, c'est qu'on sera plus sollicité pour donner des cours et tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de MMA maintenant, actuellement. Mais quand le MMA sera légalisé, il y aura beaucoup plus de clubs, il y aura beaucoup plus d'événements. L'UFC va venir ici, donc ça sera un truc de malade.
Il y aura un besoin, en fait, de combats seuls.
Donc, grâce au MMA, parce qu'en fait, quand il présente le combattant, MMA, il parle toujours, black belt, jiu-jitsu. Ça, tu vois, de jiu-jitsu. Il parle de ce qu'il fait le mec, il vient du sambo, il vient du karaté. Et donc, ça va donner plus de visibilité pour nous. Et pourquoi pas, il y aura plus de travail, les gens vont plus nous connaître.
Mais vous, en tant que sport pratique, toi, individuel, tous les
jours. On a compris, c'est devenu une star, lui.
C'est un autre sport, et le jiu-jitsu brésilien, j'ai encore trop d'objectifs à avoir que j'ai pas atteint. Mais par contre, dans ce que Seif a dit pour le rejoindre, c'est vrai que par exemple, une structure comme le MMA Factory, qui est pas très loin d'ici et qui a des athlètes qui sont à l'UFC, des athlètes qui sont comme Cyril Gann, Francis Ngannou.
C'est des pointures du MMA.
Eux font appel à deux des professeurs de la MK Team, donc qui est mon club, et donc mon professeur, je lui passe le bonjour en même temps.
Publicité, là.
Olivier Miquel. Bien sûr, mais tu peux.
Et Samuel Monin. Et Samuel Monin, qui est déjà venu sur ce plateau, et qui actuellement prépare Cyril Gann pour la partie au sol. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir dans le MMA, le jiu-jitsu brésilien, c'est important.
Et c'est essentiel. C'est vital.
C'est essentiel. Et donc, grâce à ça, grâce à ce que le MMA va prendre, le jiu-jitsu brésilien derrière, en s'accrochant à la cheville du MMA, on peut également monter et faire de l'argent
rapidement. Et on va terminer après sur les championnats d'Europe.
C'est ça votre intérêt. Je suis parent, j'ai mon gamin ou ma gamine, elle a 7-8 ans. Il veut faire du MMA. Je vais dire, les MMA, ça fait un peu peur, entre guillemets.
Ouais, c'est un peu chaud, là, quand même.
Comme on connaît le jiu-jitsu, je vais plus l'orienter.
La vérité, moi, j'aime pas ce terme-là, je fais du MMA. Parce que
c'est du MMA.
Ça veut rien dire, en fait.
En fait, MMA, ça veut
dire. Un mélange d'arts martiaux,
c'est ça. C'est le terme, c'est mélange. Vous avez compris, vous n'êtes pas.
Tout le monde mélange.
Tu le passes
pas. N'esquivez pas le truc, c'est du MMA.
Oui, Sam. Championnat d'Europe.
Pour revenir aux championnats d'Europe qui ont eu lieu la semaine dernière.
Elle a disparu la médaille.
On peut dire que c'est Safe qui est avec nous, qui a fait deuxième en ceinture noire adulte.
Ah ouais, faut le rappeler.
La plus belle performance française à ce jour.
Ouais.
Pour présenter.
Florence Cousin.
Laurence Cousin, excusez-moi.
Ah ouais,
toutes nos félicitations à Laurence Cousin pour sa prestation. Et donc pour en revenir rapidement, vous expliquer un peu à tout le monde la différence entre un championnat d'Europe classique et un championnat d'Europe d'IBJJF. Donc IBJJF qui reste une société, elle a créé des catégories, des sous-catégories, et tout le monde peut s'inscrire. N'importe quelle personne lambda peut s'inscrire tant qu'elle paye son inscription et sa licence. À plus de 100 quelques dollars l'inscription.
C'est bien cher, ouais.
Ouais. Au plaisir. Donc, il y a plus de 5000 participants en une semaine.
Ouais. Cette année, ils ont battu le record. C'était 4937 inscrits.
Et donc, en fait, avant, il n'y a pas de sélection par pays. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 50 Français dans la même catégorie. Ça ne pose pas de problème à l'UFC.
Oui, c'est
ceux
qui s'inscrivent. C'est inscription libre.
Exactement. Ça fait qu'on a des catégories.
À part le noir, tu dois avoir des points pour pouvoir participer.
C'est la seule exception. Mais on peut avoir des catégories à plus. Moi, dans ma catégorie, il y avait 102 personnes. C'était incroyable.
Ouais, quand même.
Ouais, 8 tableaux.
Ça va être dur de gagner, quoi. 102,
c'est chaud.
Faut être meilleur pour gagner.
En fait, ils ont réussi à trouver un.
Dis-le, comme s'il ouvrait un papillote. Ouais, normal. Faut être meilleur pour gagner.
Non, vas-y.
La vérité en France, dans le Maghreb, tu vois, on représente le Maghreb un peu, l'Algérie, Tunisie, tu vois, c'est Maghreb.
Et tu vas terminer deuxième en plus, faut le rappeler.
En fait, on a juste besoin de soutien, en fait, du public, les gens qui nous soutiennent. Et tu vois, plus on aura de.
Mais ils sont là, les gens aussi, quand même.
Si, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent.
Ils aiment beaucoup ce sport-là.
Oui, il y a beaucoup de gens
qui voir le positif.
Vraiment.
Et c'est bien que les gens nous soutiennent, comme ça, on aura plus de visibilité. Alors, on peut avoir plus de sponsors parce qu'il faut se dire que c'est un sport qui est coûteux, qui coûte beaucoup d'argent.
Exactement.
Et pour une personne qui travaille, famille, tout, c'est spécial. On a tous des travaux. On vit pas du sport, ça c'est sûr. Moi j'ai mon travail, j'ai ma famille, je suis marié, les enfants. Donc voilà. En gros, je vais dire, en fait, on fait beaucoup de sacrifices, on s'entraîne beaucoup, on travaille la vie de tous les jours. Et donc en fait, on a besoin d'argent, on a besoin de plus de soutien pour avoir plus de sponsors. Comme ça, ils peuvent nous aider à avoir
Mais, d'où l'intérêt d'avoir une fédération de jiu-jitsu énorme.
Et que, ouais, c'est fort.
Et plus t'as une fédération de jiu-jitsu qui est grande, plus t'as de licenciés, et automatiquement, le président de la fédération ou le comité directeur prendra une partie des licenciés, par exemple, je sais pas, 100 euros l'année ou je sais pas combien, c'est un exemple, hein, et remettra au sport de haut niveau.
Mais sauf qu'en France, on n'a pas fédération, c'est ça le problème.
Oui, mais c'est qu'il faut une fédération.
On parle trop de politique et c'est des sujets.
Mais c'est de la politique, attention.
Non, mais c'est des
politique,
sujets.
Politique, ça veut dire.
Ouais, mais on va parler de la politique, Karel.
Non, je termine. Tu sais ce que ça veut dire politique en grec? Vie de la cité.
Mais oui.
Ça veut dire tu vas acheter ta baguette, tu fais de la politique.
Mais oui, mais ça.
Tu vas mettre de l'essence, tu fais de la politique.
Et honnêtement, ça me saoule de ouf.
Bah c'est
moi, ça m'intéresse pas de parler de ça.
Mais c'est obligé. C'est comme ça que tu vas vivre. Pourquoi le judo est plus fort que le MMA, est plus fort que Jujutsu? Parce qu'ils font de la politique. C'est ça, t'es obligé.
Vas-y, c'est
obligatoire.
Allez, rapidement.
La politique du judo, elle a tué le sport. Aujourd'hui,
oui.
Le sport. Aujourd'hui, en judo. Avant, en judo, on pouvait faire beaucoup plus de trucs qui maintenant sont interdits. Si aujourd'hui, on laisse les politiques se mêler du judo brésilien, ça sera chiant. Et maintenant, regarde. Moi, je parle de mon cas. Je suis vraiment concentré sur mon cas. Je vis pour moi. Je suis né seul. Je vais mourir seul. C'est mon cas. Je vais être champion. C'est maintenant.
Ouais.
Si j'attends que maintenant.
Oh, ouais, il est chaud,
lui. Non.
Ouais.
Non, je dis maintenant.
Tu deviendras
bien sûr.
Bien
sûr.
Je dis maintenant. Non, je suis chaud.
Ouais. Tu deviendras pas.
Seul, t'arriveras jamais.
Tu deviendras pas champion tout seul. Mais de mon cas, j'ai pas envie d'attendre qu'une fédération commence à se bouger. Je préfère m'entourer des personnes, mon professeur, les gens de mon club, trouver des sponsors par moi-même, m'occuper de mon image pour derrière atteindre petit à petit mes objectifs et pas attendre que quelqu'un vient de me dire, bah c'est bon, on a la solution, je préfère me bouger par moi-même.
Okay.
Et c'est beaucoup. Voilà, c'est mon point de vue.
Juste terminer.
Son point de vue.
Ce qui est antinomique et ce qui est complètement incroyable, c'est que la fédération de boxe, si elle reprend le MMA, elle-même, la fédération de boxe, elle a du mal à gérer ses propres professionnels. Sur les champions du monde de boxe à Parioka, la team, sa team, le reste, ils sont champions de France, champions d'Europe, ils n'arrivent pas à vivre. C'est incroyable.
Kamel, on a laissé parler tout le monde. Une large page concernant le jiu-jitsu avec nos trois athlètes. Ce soir, Wissem et aussi Sefedine et Adil. Justement, il y a quelqu'un qui a composé le 0153483000, c'est Jos de Villiers-sur-Main. Et oui, on n'a pas eu le temps de parler de l'Open d'Australie, ni de Kobe Bryant, ou encore même de l'Olympique de Marseille. On en a même perdu Achille.
Il faut nous consacrer
3 heures. Ah oui, 3 heures, c'est trop. Bonsoir, Jos, avant la fin de cette émission, on vous écoute.
Bonsoir. Bah, déjà, je voulais remercier de me prendre à l'antenne. Il y a des personnes que je connais.
Ouais.
Parce que le JJB, c'est vraiment un petit monde. Donc, je vais commencer par dire allez Wissem.
Ouais, allez Wissem, il est là.
Et voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai créé ma propre structure à Villiers-sur-Marne. Et comment ça s'est passé, c'est que, je suis d'une petite association. J'ai découvert le jiu-jitsu à Joinville via la Submission Team. Et,
grosse dédicace à la Submission Team d'ailleurs.
Exactement.
Merci.
Et je me suis dit, ce sport, il m'a rendu ouf. Comme ils ont dit à l'antenne, je faisais à l'époque 105 kilos et je me suis fait retourner par un petit de. Il devait faire 65, pas plus de 65 kilos, il m'a fait la misère. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, c'est ce sport-là qu'il faut que je fasse. C'est ça. J'ai fait de la boxe taille avant.
Ouais.
Et j'ai jamais autant accroché que j'y vais. Du coup, moi, naïvement, je me suis rapproché du judo. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'il faut savoir que pour le judo, comme je dis, ils enseignent une puissance politique. Et lancer un club dans une ville de jiu-jitsu brésilien, c'est extrêmement compliqué parce que, en général, les créneaux sont tous occupés par le judo et ils ne font pas de place.
Ouais.
Et c'est vraiment
sans. Ah, c'est dommage, quoi.
Ouais, c'est pire que ça. C'est qu'on se met aussi d'une mauvaise image, c'est que pour eux, le MMA, c'est le JJB. Donc, en gros, leur politique, c'est regarder le MMA et c'est ce que vos enfants vont faire.
Ouais.
Et c'est très compliqué de mettre sa structure en place. Heureusement, petit à petit, on a réussi à lancer notre club. Et les clubs entre eux, en fait, sont quand même assez solidaires. Et c'est eux qui nous ont permis de grandir.
Bien sûr.
Il y a un truc qu'il y a au JJB et qu'il n'y a pas ailleurs, parce que j'ai fait beaucoup de foot, c'est la solidarité.
Ouais.
Après, je pense que effectivement, c'est un sport amateur et qu'il y a un souci de structure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs, mais au niveau de la structure, c'est pas ça. Et je pense effectivement qu'il faut se politiser. En fait, il faut vraiment rentrer dans une. J'allais dire c'est une guerre, mais c'est limite ça, en fait.
Bien sûr, c'est une guerre politique. C'est une guerre politique.
C'est une guerre. Aujourd'hui, nous. Heureusement, notre chance, c'est qu'on avait un élu dans notre association. ça nous a permis de rentrer petit à petit, de rentrer déjà un pied, un coude, la tête et le corps. Mais on sait que si on ne fait pas attention, demain, notre club, il peut fermer. Et je pense que c'est à peu près pareil pour la majorité des clubs.
Bien sûr.
En fait, les licenciés qu'on a, les judos lorgnent dessus. Le judo lorgne dessus, tout simplement.
Joss, oui. Joss, on vous remercie, c'est la fin de cette émission, vraiment. On vous remercie pour ce ressenti concernant la planète sport et notamment le Jiu-Jitsu et avec les autres fédés, que ce soit le judo. On essaye justement de faire en sorte d'avoir des personnes telles que sur le plateau, que c'est Fedine, que Adil ou encore que Wissem, qui les amèneront loin, loin, loin les clubs, cette discipline qui est le Jiu-Jitsu, on l'espère vraiment pour les années à venir, et aussi de démontrer que, voilà, que cette fédé, on vaut la peine quand même. Pourquoi pas y les retrouver, on ne sait jamais, 2024 ou même pour après.
Vous savez, rapide,
je vous le dis, on termine.
À nos sportifs qui sont sur le plateau, pourquoi il faut y aller?
Ouais.
Parce que ce qu'on empêche, c'est ce qui fait peur. Quand on empêche quelque chose, ça veut dire que le Jiu-Jitsu fait peur au judo et ils savent très bien que vous allez réussir.
Merci Kamel, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 19h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.